Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre Santé un Trésor. Nous recevons une nouvelle fois avec grand plaisir le pasteur François Claveiroli, qui, comme nous l'avons précisé dans une précédente émission, est une personnalité importante au cœur de la communauté protestante française. Il était président de la Fédération protestante de France, Église protestante unie de France, de 2013 à 2022. François Claveiroli est membre de la Conférence des responsables de culte en France. Précisons que depuis le 23 novembre 2010, les responsables de culte ont convenu d'une concertation régulière entre eux, indépendamment des réunions avec les pouvoirs publics. Non pour constituer un front des religions, mais pour favoriser le discernement interreligieux. Chaque culte est représenté par deux personnes, soit 12 au total, bouddhisme, catholicisme, islam, judaïsme, orthodoxie, évidemment protestantisme. La rencontre se déroule chaque fois dans un lieu religieux différent, et cela dans le respect des autres courants de pensée et par la reconnaissance de la laïcité comme fondement de la République. Bonjour à vous, monsieur le pasteur, et bienvenue à nouveau avec nous dans l'émission Votre Santé un Trésor.
Bonjour.
Vous êtes mon premier invité qui va s'exprimer sur les nouvelles dispositions législatives concernant ce que l'on dénomme la fin de vie. J'aimerais préciser, si vous me le permettez, que pour les croyants, ce n'est pas la fin de vie d'ici-bas. Pouvez-vous, dans un but thérapeutique, nous rappeler les enjeux législatifs actuels ?
Alors, peut-être dire en introduction que le sujet fin de vie est un sujet que l'on voit venir depuis quand même pas mal d'années et qui s'inscrit dans ce long chemin législatif dont la France peut être fière finalement depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui sur les lois bioéthiques et les lois éthiques et qui aboutissent en dernier ressort à la fameuse loi Claeys-Leonetti qui fixe le cadre juridique de la fin de vie à ce jour. Et si je parle d'un chemin, c'est parce que ce chemin n'est sans doute pas terminé. Nous avons déjà abordé les années précédentes des sujets extrêmement difficiles. Je pense aussi à l'extension de la PMA, donc la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires. Je pense évidemment au mariage des couples homosexuels. Mmh. Je parle donc de cette fameuse loi Claeys-Leonetti. Et donc l'Assemblée nationale s'est prononcée sur un projet de loi concernant la fin de vie, donc qui organise, qui précise comment la loi Claeys-Leonetti, ne répondant pas à tous les cas, autorise l'aide médicale au suicide pour un patient qui serait en capacité de se suicider, mais avec l'aide évidemment d'un personnel médical, d'un médecin ou d'un infirmier, ou dans le cas où il ne le pourrait pas, de demander à un médecin ou un infirmier d'agir et donc de procéder à une forme d'euthanasie. Mmh. Alors on est là à ce chemin, il va falloir maintenant que le Sénat se prononce. Et évidemment, tout dépendra évidemment de la qualité du débat, tout dépendra aussi de la décision. Et puis ensuite, il y aura de nouveau un retour pour que cette loi soit vraiment la loi de la République. Mais pour l'instant, nous sommes en chemin. Rien n'est fait, rien n'est décidé de manière définitive.
Mais alors, c'est important de vous le dire parce qu'on a l'impression que c'est fait. En fait, c'est pas du tout fait. Moi, j'ai suivi ces différentes dans mon cursus d'étudiant et comme praticien et comme conseiller ordinal et responsable ordinal, ce sont des choses qui sont venues. Puis j'étais très impliqué dans les soins palliatifs, donc j'ai suivi tout ce processus. C'est vrai que c'est un chemin, c'est une maturation, c'est un fruit qui mature à mesure et suivant la société. Donc c'est quand même un chemin législatif important. Et peut-on, à votre avis, être contre ou pour une évolution de la loi décidée par les représentants élus du peuple sur la fin de vie, au nom d'une tradition religieuse, comme s'il y avait privilège en ce qui paraît être un sujet réservé aux religions, alors que tous les citoyens français sont concernés?
C'est précisément l'un des enjeux du débat. La loi est faite par la représentation nationale. Et il s'agit bien de la représentation nationale, c'est-à-dire des députés, des sénateurs. La loi n'est pas faite par les religions. Et ça, il faut quand même qu'on le sache encore plus sur ces sujets extrêmement précis que sont les sujets d'éthique. Et pour ce qui concerne l'éthique, j'aimerais vous lire une définition qui m'aide beaucoup, qui a aidé énormément de députés aussi et de personnes qui réfléchissent sur ces sujets. C'est la définition du philosophe protestant Paul Ricoeur qui dit, au fond, l'éthique, c'est la visée particulière de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. C'est-à-dire que l'éthique n'est pas simplement une affaire personnelle individuelle. Ça n'est pas le petit bricolage intérieur de chacun sur ses options et ses préférences. L'éthique n'est pas une opinion personnelle. L'éthique est une visée particulière de la vie bonne, avec et pour les autres, et dans des institutions justes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se traduire ensuite par la législation dans des institutions. Et ici, les institutions concernées, c'est en particulier l'institution médicale. C'est l'instance médicale, avec donc toute une série de responsables, de praticiens, de professionnels, et puis tout cela encadré par la loi. Et donc c'est aussi les juges, les magistrats qui sont concernés. Vous voyez, c'est toute la société qui est embarquée dans la réflexion éthique. Ça, je voulais le rappeler parce que sur ce sujet-là, vous savez, on entend dire souvent, mais moi je pense que, moi je voudrais oui, que, oui. moi je. Non, l'éthique n'est pas moi je. L'éthique est une ascèse qui embarque l'autre différent et dans des institutions justes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour rappeler qu'on est en chemin et que ça n'est pas terminé précisément, c'est de dire au fond que ce sujet de la fin de vie, un peu à l'image d'ailleurs de la question aussi complexe que la peine de mort, ce sujet, nous ne le commençons pas. Enfin, je veux dire par là que d'autres avant nous l'ont traversé, oui, d'autres oui. avant nous l'ont fait. Quand la France a décidé de supprimer la peine de mort, d'autres pays l'avaient déjà fait. Et aujourd'hui, pour la fin de vie, d'autres pays l'ont fait. Donc nous ne sommes ni les premiers ni les derniers sur ce sujet. Et donc il faut aussi là un tout petit peu calmer le jeu et dire voilà, nous sommes en chemin, mais avec d'autres. Nous sommes en chemin, mais nous ne sommes pas seuls sur ce chemin.
Je relèverai deux mots, avec et pour, qui sont fondamentaux, qui sont la pierre d'angle de cette citation. Je vous remercie de nous faire participer. Et c'est important. Alors, par exemple, pour le médecin, parce qu'on peut parler, enfin, là, le médecin et maintenant l'infirmière, puisqu'il y a un ordre des infirmières qu'il n'y avait pas. L'ordre n'est pas uniquement fait pour taper dessus, hein, bien que seulement. C'est aussi pour encadrer un ordo. Et donc, on adhère à l'ordo ou pas. Donc, il y a une éthique médicale, c'est où on adhère à l'éthique médicale qui se transforme. Moi, j'ai vu l'éthique médicale se transformer, la déontologie médicale se transformer. Je ne vais pas vous citer des exemples, mais avec et pour, c'est une évolution de la société. Et donc, le soignant n'est pas là pour lui ou pour dire je pense ou j'ai commencé à faire médecine comme ça, je dois faire. Donc, j'ai commencé à faire médecine il y a 30 ans, mais c'est pour faire la médecine actuelle, donc pour des gens actuels, pour des jeunes. On me cite souvent les jeunes, je me dis, mais moi, c'est toujours les jeunes qui ont raison, parce que c'est eux qui prennent la relève. Dire, oui, mes filles. Donc c'est important avec et pour. À votre avis, comment faire vivre ensemble une réponse commune avec les religions ou sans elles, avec les croyants et les non-croyants sur ce sujet?
C'est l'organisation du débat public qui permet que les confessions religieuses en France soient auditionnées à la fois par des commissions à l'Assemblée nationale ou au Sénat et, si elles le désirent aussi, auprès de certains députés ou certains leaders d'opinion. Donc il y a un débat, il y a une participation des confessions à ce débat citoyen. Mais où elles ne sont pas les seules, bien évidemment, puisque, comme vous l'avez dit, il y a des professionnels de santé qui sont concernés, des juristes qui sont concernés, des associations de patients, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de la société qui est partie prenante de ce débat, et les confessions sont un élément parmi d'autres. Alors, il se trouve, et c'est là où je voulais en venir, parce que cette émission me paraît très importante, il se trouve que, curieusement, l'effet produit par la prise de position des religions en France a été au fond que chacun a compris que les religions sont contre. Voilà. Catholicisme, judaïsme, islam, protestantisme, ces religions sont contre le projet de loi concernant la fin de vie. Et j'ai dû tranquillement mais fermement rappeler que pour ce qui concerne le protestantisme, il existe une diversité d'options, une diversité de sensibilités qu'il faut savoir valoriser. Je regrette, cette diversité n'a pas été valorisée dans la présentation qui en a été faite. Alors j'en veux pour preuve quand même le texte de la Fédération protestante que j'ai moi-même demandé, alors je ne suis plus maintenant président, mais lorsque nous avons mis en place la commission éthique pour régler ces questions-là et donner quelques avis, il était bien noté ceci. Le protestantisme est riche de différentes tendances et sensibilités théologiques. Ces différences suscitent régulièrement des tensions qui nourrissent un constant débat en son sein. Si elles opposent quelquefois les protestants luthéro-réformés et les protestants évangéliques, force est de reconnaître que ces différences traversent aussi les luthéro-réformés et les évangéliques eux-mêmes. Sur ces questions relatives à la fin de vie, deux sensibilités principales peuvent être identifiées. Et vous comprenez de quelle sensibilité il s'agit. L'une étant tout à fait opposée, et ça je le reconnais, il y a effectivement dans le protestantisme toute une partie de penseurs, de chercheurs et de croyants qui s'opposent absolument à cette aide médicale au suicide et au geste de l'euthanasie. Mais il y a aussi une autre sensibilité qui veut faire droit à cette demande, à cette évolution, à cette problématique. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre garde à ce fait qu'il n'y a pas, comme vous l'avez dit en introduction à cette émission, de front des religions. Je récuse absolument cette idée, parce que cela ferait croire que nous sommes tous équidistants du même refus concernant l'évolution de la loi. Ça n'est pas le cas, et ça n'a d'ailleurs jamais été le cas sur aucun des sujets. Je me souviens du débat sur l'avortement dans les années 70, et puis après, évidemment, la loi Veil, 75. Je me rappelle aussi du débat sur le mariage des couples homosexuels et la bénédiction des couples homosexuels, la PMA donc pour les femmes célibataires, ici donc c'est l'aide médicale à mourir, et donc voilà, il y a une diversité d'approches en protestantisme, et je pense que c'est à l'honneur du protestantisme que de rappeler cela. Être protestant, être membre de cette famille spirituelle, ça n'est pas être aligné, ça n'est pas être aligné, c'est être libre et responsable et puis solidaire. Et je tiens à ces trois adjectifs, libre au nom du Christ, responsable, c'est-à-dire assumant ses positions, et solidaire, c'est-à-dire pas seul, ayant ses positions en articulant une conviction avec le souci de l'autre, le souci du commun, comme on dit aujourd'hui de manière un peu classique, de sorte que ce n'est pas encore là le moi-je qui l'emporte à l'extrême, ou le dogme à l'autre extrême.
Avec et pour.
Voilà.
Avec et pour.
Avec et pour.
Je vous propose une trêve musicale avec le Requiem allemand de Johann Brahms, qui lisait la Bible avec assiduité dans les versets traduits par Luther, versets qu'il finira par connaître par cœur et qu'il utilisera dans son Requiem. C'est une œuvre sacrée mais nullement liturgique, en 7 mouvements, je vais en 1868. Elle dure de 70 à 80 minutes, ce qui en fait la plus longue composition de Brahms. Écoutons ce Requiem. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le pasteur François Claveroli, qui réfléchit avec nous sur la fin de vie. Ma question va être peut-être un peu longue, mais cette longueur est importante. Comment peut répondre la Fédération protestante de France à l'affirmation « Aujourd'hui, nous mourons mal en France » que l'on retrouve exposée dans les motifs de la proposition de loi numéro 3755, qui, rappelons-le, est une proposition de loi visant à affirmer le libre choix de la fin de vie et assurer un accès universel aux soins palliatifs en France, déposée le mardi 19 janvier 2021, et à celle de la proposition de loi relative à la fin de vie, numéro 1100, déposée le mardi 11 mars 2025, donc récemment, où l'on retrouve « L'aide à mourir consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, c'est-à-dire une substance mortelle, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou une infirmière. »
Oui, alors, vous avez raison de prendre le temps de poser la question ainsi, parce qu'avec cette question un peu longue, on peut traverser l'ensemble des thématiques qui ont amené précisément le législateur à cette proposition. Effectivement, et la Fédération le reconnaît, la situation reste préoccupante en France concernant la fin de vie. On meurt mal. En France.
Ça, je peux vous le dire, c'était mon vécu, puisque je pratiquais les soins palliatifs. J'essayais de faire comme pour moi-même, mais d'une manière générale, on meurt mal.
On meurt mal. Trop de personnes meurent mal dans des situations d'indignité pour différentes raisons. Et le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie estime à 60% les personnes qui auraient besoin de soins palliatifs dans cette situation-là. Et c'est vrai que nous manquons de lits, enfin nous manquons de places de soins palliatifs en France, même si les choses avancent. Et la loi, justement, l'un des volets de la loi concernant les soins palliatifs va sans doute permettre à la France d'augmenter le nombre de lits de soins palliatifs.
Si vous me permettez 30 secondes, une petite parenthèse, c'est le mourir à domicile aussi qui est catastrophique, parce qu'alors là, il n'y a aucun moyen. Et c'est bien souvent le soignant, enfin les soignants, le médecin et l'infirmière, qui se débrouillent. Le terme, c'est débrouiller. Moi, j'ai fait du soin palliatif à domicile. Il fallait se débrouiller pour faire le moins mal possible, parce que c'est quand même difficile. Donc ça, c'est vrai qu'on parle souvent des institutions, mais le mourir à domicile est important. Parce qu'il y a un choix aussi des gens de « je veux mourir chez moi ». Et donc, il faut le prendre en compte. Je referme ma parenthèse.
Mais vous avez tout à fait raison. Donc, c'est au fond toutes ces pratiques qui peuvent s'additionner et améliorer la situation du mourir en France. Alors, ce n'est pas que la France, mais enfin, c'est vrai que puisqu'on parle de ce pays, nous avons une marge de progression très, très importante sur ces deux points, c'est-à-dire les soins palliatifs et le mourir à domicile. Et puis, ensuite, il y a cette offre, ce champ possible que la loi permettrait de se laisser administrer un produit létal ou bien de se l'administrer soi-même si on en est capable, et c'est l'aide médicale à mourir, enfin au suicide. Avec ce paradoxe ou cette, un suicide normalement n'a pas besoin d'un tiers, mais voilà, c'est une espèce de...
Le terme est mal choisi.
Voilà, le terme est mal choisi.
C'est comme le vaccin pour le Covid, il fallait inventer un terme, c'est pas vaccin.
Mais alors les choses avancent et je pense que la proposition de loi a régler cette question-là. Ceci dit, de quoi s'agit-il ? Et c'est là-dessus que moi j'aimerais exprimer devant les auditeurs ce que je ressens, ce que je vois, c'est qu'il y a une constellation de notions qui doivent s'aligner, vous savez, comme des astres peuvent s'aligner, de sorte que les choses puissent bien se vivre, y compris jusque dans ce dernier moment. Et ces notions sont celles que nous utilisons assez régulièrement, mais sans toujours en avoir bien la conscience. Je pense en particulier à la dignité, la dignité de la personne. Alors il faudra s'entendre sur ce qu'est la dignité, puisque ce terme de dignité est employé par les tenants de la loi et puis par les opposants.
Oui, les opposants.
Et donc c'est un terme qui, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de la position, veut dire exactement le contraire. Il y a un deuxième thème qui s'importe, qu'on a évoqué lors de la précédente conversation, c'est le thème de la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance ? Comment lutter contre la souffrance ? Et est-ce que la souffrance fait sens ? Il y a un troisième thème qui est celui de la fraternité. C'est-à-dire, au fond, qu'une loi telle que celle de la fin de vie doit faire droit à ce troisième terme de la devise républicaine. Pas seulement la liberté de choisir sa vie ou sa mort, pas seulement l'égalité, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde soit égal devant la mort, mais on sait bien que c'est compliqué, mais aussi la fraternité, c'est-à-dire que la société prend en charge fraternellement cette question dans la détresse. Et puis, un autre mot encore, une autre notion, et qui est, à mes yeux aussi, très importante, c'est celle de la confiance. Je m'explique, nous avons tous, les uns et les autres, dans notre vie, eu affaire avec la médecine. Et y compris dans des moments, par exemple, d'hospitalisation, brève ou longue, grave ou bénigne, nous avons eu confiance dans le corps médical. Nous avons, d'une certaine manière, confié notre corps aux médecins et aux infirmiers. Il est important que le patient garde cette confiance, de la même façon que les médecins font confiance à leur institution pour exercer leur métier, même si c'est difficile, même si l'hôpital est en crise, etc. Mais cette confiance du patient à l'égard du corps médical est aussi un élément décisif. Et il ne faudrait pas que pour des raisons, alors on va dire quoi là, économiques, techniques, etc., les citoyens perdent confiance dans la médecine et se disent au fond, maintenant je suis au bout de ma vie, je ne sers plus à rien, je vais me retirer parce que je n'ai plus confiance en personne, je sens que je pèse trop, je gêne. Et donc, je vais quitter le territoire des vivants. Donc voilà, je pense que là, il faut arriver à articuler, vous voyez, ces notions de dignité, de fraternité, de confiance, de sorte que chacun puisse aborder ce sujet de la fin de vie de la manière la plus apaisée possible, et de sorte qu'aucun de ces éléments qui constituent notre vivre ensemble ne soit oublié.
Alors, vous avez écrit que l'éthique des églises se refuse donc à tout passage à la loi établissant une normalisation de l'aide médicale au suicide. Elle peut aller toutefois jusqu'à accepter, dans certains cas limite, une exception d'euthanasie, telle une transgression qui ne serait alors pas sanctionnable. Qu'entendez-vous par là ?
Ben c'est un peu, voilà, c'est Paul Ricoeur qui essaye de faire ce chemin, et avec lui d'autres, hein, je pense aussi à Didier Sicard qui a été au Conseil consultatif national d'éthique, au fond de dire, sans justifier l'euthanasie, nous pouvons parler d'exception d'euthanasie. Dans certains cas, au fond, cet acte qui est répréhensible selon la loi, c'est interdit en France, pourrait ne pas être pénalisé, mais dans certains cas seulement, comme une exception. Et on voit bien que c'est une ouverture possible, mais qui ne répond pas vraiment à la demande. Parce que l'exception, précisément, n'est pas la loi, n'est pas la règle. Et le projet législatif veut justement renverser la chose en disant non, on ne va pas permettre des exceptions, on va essayer d'être dans l'intérêt général et de faire en sorte que tous puissent faire valoir, s'il le désire, cette volonté de fin de vie avec l'accord du médecin. Et il y aura donc, dans ce cas-là, évidemment, une clause de conscience si le médecin ne peut pas accepter ce geste. Avec ce débat, vous savez, qui est très important de savoir si le geste létal est un geste de soin, enfin, si ce geste qu'on va demander est un acte de soin, et évidemment, beaucoup de médecins diront « mais non, ça n'est pas un acte de soin, on a été formé pour soigner, pour guérir, et non pas pour tuer ».
Alors je voudrais faire une remarque, la clause de conscience existe bien dans la loi, dans le projet de loi, pour les médecins et les infirmières, mais nullement pour les pharmaciens. Le pharmacien sera obligé, si la loi passe, de délivrer. Donc c'est quand même très important, et c'est une rupture d'égalité. Donc là, je défends un peu les pharmaciens, parce que si le pharmacien, quand vous remettez un traitement en sachant très bien que c'est létal et que pour vous, c'est quand même important. Donc je crois que les législateurs doivent réfléchir à une liberté de conscience du pharmacien. Donc je voulais le souligner parce que bon, c'est important et nous travaillons, j'ai travaillé avec des pharmaciens. Alors si vous le permettez, j'aimerais vous citer pour clore cette émission avec trois extraits de vos écrits. La société des individus demeure en son corps jusqu'au bout une société de personnes, d'hommes et de femmes libres, responsables et solidaires, habitant non plus Babel où un seul langage serait toléré, en l'occurrence le langage qui se prétend religieux, mais bien la cité des hommes où l'on s'entend et où la parole d'autrui, même la plus étrange, se trouve respectée. Et puis aussi, vous avez écrit, il faudra bien un jour faire vivre ensemble une réponse commune avec les religions ou sans elles, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Troisième extrait est celui que j'ai choisi. Ne peut-on imaginer que Dieu croit en l'homme bien plus et bien mieux que l'homme ne croit en lui? Ne peut-on pas affirmer qu'il nous offre la vie totale et en toute confiance et qu'il nous laisse réellement libres de la vivre devant lui? Et vous citez le Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance. À nous à présent de réfléchir devant ces citations, et notamment cette citation de l'Écriture, et nous vous remercions de cette stimulation que vous nous offrez. Eh bien, monsieur le pasteur, je vous remercie au nom de nos auditeurs de nous avoir éclairés de vos réflexions d'hommes d'éthique et de foi. Merci infiniment encore à vous et j'espère que la nouvelle Université populaire des religions de Nîmes, dont vous êtes le nouveau président, abordera ce type de réflexion, par exemple durant des séminaires sur l'éthique, ça serait intéressant, ou lors de formations d'anthropologie, et notamment d'anthropologie, non pas médicale, mais d'anthropologie sur la base de la méthode médicale. J'ai l'habitude de clore cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé au pasteur Claverolier de nous citer des livres sur un sujet d'actualité.
Alors, sur un sujet d'actualité, mais pas médical. Il y a un lien indirect avec la médecine, mais c'est le livre de Luc Ferry sur l'intelligence artificielle et qui nous montre comment, justement, les métiers vont être percuté par cette réalité nouvelle, à la fois en amont, c'est-à-dire dans la formation, dans la pratique, et puis dans l'anticipation dans la suite. Et je pense effectivement que la médecine va être très très questionnée, très interpellée par les possibilités, les potentialités infinies de l'intelligence artificielle.
Et bien, merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle aussi mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé en trésor sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.